De retour sur le plateau de BFM avec toute l'équipe qui est présente. Yann Brossat qui nous a rejoint. Bonsoir Yann Brossat, sénateur du Parti communiste de Paris, ancien adjoint à la mairie de Paris, chargé du logement de 2014 à 2023, parce qu'on va parler de logement ce soir. Avec cette question, est-ce qu'il faut réserver les logements sociaux aux infirmiers, aux profs, aux policiers, ces métiers de première ligne qui sont nécessaires à notre quotidien, qui manquent de plus en plus, la fonction n'attire plus, les services se dégradent, alors ce coup de pouce, ce serait un moyen en fait de faire venir de nouveaux candidats et d'améliorer les conditions de travail de ceux qui sont en poste. C'est votre proposition, David Amiel. Vous êtes député Renaissance de Paris. Bonsoir. Vous avez remis un rapport aujourd'hui à Stanislas Guérini, le ministre de la Fonction publique, et à son homologue au logement, Guillaume Kasbarian. Cette proposition, on va l'évoquer dans un instant, mais avant, racontez-nous l'enquête, parce que vous avez rencontré, interrogé de nombreux agents de la fonction publique. Vous avez identifié un vrai problème, ce sont les heures de trajet pour se rendre au travail.
Tout à fait, et c'est vrai dans une grande partie du territoire national, que ce soit dans les grandes villes, vous avez cité Paris, on pourrait évidemment citer Lyon, Bordeaux, d'autres grandes métropoles, mais aussi dans les zones frontalières, je pense à la Haute-Savoie, au pays de Gex, des zones littorales, des zones touristiques. Dans tous ces endroits, ce qu'on voit, c'est effectivement des agents publics qui n'arrivent plus à se loger à proximité de leurs emplois, qui font donc des heures et des heures de trajet pour s'y rendre, qui sont exténués et qui finissent donc parfois en bout de course par jeter les éponge, ce qui fait évidemment peser une menace existentielle pour nos services publics. On a des hôpitaux qui ne parviennent plus à recruter, des agents qui les désertent alors qu'ils aiment ce métier avec passion, mais parce que les conditions de logement, les conditions de transport sont devenues inacceptables. Alors on a évidemment une crise du logement qui frappe tout le monde, que l'on travaille dans le public comme dans le privé. Et on portera, et on porte avec le gouvernement et le ministre Kasbarian, une politique générale. Mais on a vraiment une crise très aiguë pour ces agents publics de première ligne, ces infirmières, ces aides-soignants. Et je crois qu'il est urgent de pouvoir y apporter des réponses pour des raisons de justice sociale et pour des raisons de sauvegarde du service public.
Justement, les réponses que vous voulez apporter, votre proposition, c'est de réserver des logements sociaux. L'idée, c'est quoi, en fait? C'est de réquisitionner des HLM pour en faire des logements de fonction pour les fonctionnaires?
Non, pas exactement. Ma proposition, c'est de pouvoir construire davantage de logements. On a besoin en France de construire davantage pour répondre à la demande, à la fois d'ailleurs celle des travailleurs du secteur privé et celle des travailleurs du secteur public. Le secteur privé a un instrument qui est Action Logement, qui permet pour un certain nombre de salariés d'avoir accès à des aides, dont un accès au logement social. Et moi, je propose qu'on ait un Action Logement du secteur public, c'est-à-dire très concrètement que l'État investisse pour produire, à côté du parc classique existant, des nouveaux logements sociaux, des nouveaux logements intermédiaires qui soient destinés à ces travailleurs
donc,
des premières...
Alors, que je comprenne bien, David Amiel, qu'on soit bien clair, avant d'évoquer la construction de ces nouveaux logements sociaux, qu'on soit bien clair dans votre proposition, il n'est pas question de mettre dehors des familles ou de mettre dehors les revenus les plus élevés, comme ça a été évoqué il y a quelques semaines par le ministre du Logement, pour faire de la place aux fonctionnaires. L'idée, c'est de construire, en tout cas votre proposition, c'est de construire des nouveaux logements sociaux qui seraient réservés exclusivement aux fonctionnaires, c'est ça?
Absolument, vous avez tout résumé. Il s'agit de produire de nouveaux logements, des logements supplémentaires qui seront fléchés vers ces agents publics de la première ligne. Ça peut être des infirmiers, ça peut être des aides-soignantes, ça peut être aussi des accompagnants d'élèves en situation de handicap qui sont des contractuels, mais dont on a tellement besoin dans nos écoles qu'ils occuperont tant qu'ils exerceront cette mission. Et s'ils choisissent d'exercer un autre métier, ce qui peut évidemment être parfaitement légitime, eh bien, ils le rendront pour que ça puisse bénéficier à un de leurs successeurs.
Je vais donner la parole dans un instant à Yann Brossat parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais quand même, est-ce que vous faites pas preuve, pardonnez-moi de la question, mais un peu de naïveté, j'attends justement votre contradiction, parce que quand je regarde les chiffres, l'Union sociale pour l'habitat dit qu'il faudrait construire 518 000 logements par an d'ici à 2040 pour survenir aux besoins, dont 198 000 qui devraient être des logements sociaux. Et on est très très loin du compte, on est à 66 000 chantiers l'an dernier, c'était nettement moins que ce qui était prévu initialement.
Bien sûr, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on se batte. On a aujourd'hui une crise dans le secteur du logement qui est due à deux choses. on a une crise de la demande, qui est une crise de court terme, qui est liée au fait que les taux d'intérêt sont dans l'ensemble d'ailleurs du monde occidental, en Europe comme aux États-Unis, très élevés, et qu'évidemment ça freine beaucoup le marché de l'immobilier. Et puis on a aussi une crise de l'offre, c'est-à-dire qu'il est devenu dans beaucoup d'endroits de France très difficile et très coûteux de construire. Et la politique qu'on mène avec le gouvernement, c'est d'agir sur les deux leviers, de pouvoir simplifier, de pouvoir réduire les coûts de construction. Le ministre Kasbarian y est extrêmement engagé. Et puis c'est de pouvoir alléger cette crise de la demande, avoir des coups de pouce financiers. On a eu un pacte sur le logement intermédiaire avec l'ensemble des acteurs économiques du secteur qui permettra de doubler la production de logements intermédiaires dès les prochains mois. C'est à ça qu'il faut qu'on puisse s'atteler et ma proposition s'inscrit dans ce cadre-là.
Yann Brossa, alors il y a deux choses, hein. Il y a la proposition, il y a le principe et il y a les moyens. On va revenir sur les moyens et la construction de logements sociaux après, parce que effectivement ça nécessite un investissement qui est considérable et puis ça soulève des questions environnementales aussi. Mais d'abord sur le principe, qu'est-ce que vous pensez de ce principe, effectivement, de se dire, bon bah pour attirer les gens vers la fonction publique, parce que de toute façon on manque de profs, on manque d'enseignants, on manque de policiers, et ben on va leur faire un petit coup de pouce et on va les aider à accéder au logement. Sur le principe, vous êtes favorable ?
L'objectif, il faudrait être complètement fou pour ne pas le partager. D'ailleurs, ça concerne les agents du public, mais ça concerne aussi un certain nombre d'agents du privé. L'idée que ceux qui font tourner nos villes doivent avoir la possibilité d'y vivre, c'est l'évidence même. Et effectivement, que ça passe notamment par du logement social, parce que le privé est devenu beaucoup trop cher pour des petits salaires. Et donc, bien sûr qu'on a besoin de le faire. Simplement, je voudrais juste insister sur un point. Ça existe déjà. Vous avez déjà aujourd'hui un certain nombre de dispositifs qui visent à loger des infirmières, des policiers, des militaires. Et donc, en l'occurrence, le gouvernement me semble découvrir quelque chose qui est déjà en
alors
vigueur.
Je me suis renseignée, Yann Brossa, parce que justement, j'avais entendu cet argument comme quoi ça existait déjà. Alors effectivement, le ministère des Armées, par exemple, a une politique très ambitieuse en matière de logement pour ses militaires. En revanche, les préfets ont effectivement la possibilité, enfin, ils mettent à disposition du parc des logements sociaux 5%. Du parc, mais c'est pour les fonctionnaires de l'État. Ça concerne pas les profs,
excusez-moi, ce sont encore des agents de l'État.
Oui, tout à fait.
Moins que. Pardonnez-moi, mais ce que j'ai lu en fait sur le site, c'était noté explicitement, les agents de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale ne peuvent pas bénéficier du contingent préfectoral réservé aux agents de l'État. Donc ça concerne pas tous les fonctionnaires.
Vous avez raison. Pour ce qui concerne, par exemple, la fonction publique territoriale, c'est le rôle des communes de le faire sur leur propre contingent. À Paris, par exemple, un logement sur quatre que nous attribuons est dédié à des agents de la ville de Paris, des éboueurs, des personnels qui travaillent en crèche, par exemple. Simplement, si vous me permettez de conclure sur le sujet, qui vit aujourd'hui en logement social ? Ce sont les personnes dont on parle. C'est là que je suis un peu surpris. Vous faites du porte-à-porte dans un immeuble de logement social. Vous avez quoi ? Vous avez des infirmières, vous avez des assistantes maternelles, vous avez des caissières. C'est ça la réalité du logement social aujourd'hui. Simplement, le problème, c'est là le cœur du sujet. C'est qu'on manque de logements sociaux.
Alors, on va y revenir dans un instant, justement.
Des attributions, mais le sujet, c'est la taille du gâteau.
Et vous avez raison, c'est le fond du problème. Mais j'aimerais quand même avoir votre avis, Ségolène, sur le principe. Est-ce que prioriser les logements sociaux, dire voilà, priorité aux fonctionnaires, à ceux qui travaillent pour l'État, et du coup, qu'il y ait une priorité par rapport aux personnes qui n'ont pas d'emploi ou par rapport aux personnes qui travaillent dans le privé. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
C'est pas aux fonctionnaires, parce que là, les gens pourraient réagir.
Ouais.
Ce dont il s'agit, c'est les soignants, les policiers, peut-être les agents territoriaux, les conducteurs, etc.
C'est ceux qui sont en première ligne.
C'est-à-dire toutes les professions, notamment les soignants, parce que le vrai problème, c'est sur les soignants, et tout ce qui pourrait être fait pour revaloriser ce métier qui, aujourd'hui, a du mal à recruter. Les enseignants aussi, ils ont du mal à recruter. Donc, tous les métiers où il y a du mal à recruter parce qu'ils sont frappés soit par des salaires insuffisants, donc c'est une globalité, c'est-à-dire l'État ne peut pas tout simplement dire « je vais réserver des quotas de logement, donc j'ai réglé le problème de la revalorisation des métiers ». Non, il y a la question de la revalorisation des salaires, mais il y a la question du logement, ça c'est évident. Et le problème, c'est que ce qui est prévu, c'est pour non pas tous les fonctionnaires, parce que ça serait mal vu, comme je viens de le dire, mais ce sont les agents qui gagnent 1500 euros bruts. Donc, il faut bien se rendre compte aussi que dans la fonction publique, contrairement à ce que pensent des citoyens non fonctionnaires, il y a des salaires et des salaires qui sont qui sont bas et donc qui posent en effet des problèmes.
Enfin, il y en a aussi des salaires bas dans le privé.
Le deuxième problème, c'est les salaires moyens, c'est-à-dire les infirmières, les jeunes chefs de service hospitaliers qui sont pas au plus bas salaire, mais qui sont dans des salaires qui sont attractifs non plus,
et qui eux
ont un vrai problème d'accès au logement dans les grandes villes à cause de l'augmentation du loyer. Je veux dire par là qu'il faut agir sur plusieurs leviers, la revalorisation des métiers, la revalorisation des conditions de travail et surtout la question de la crise du logement qui touche maintenant tout le monde
et intermédiaires,
tous les moyens.
Pourquoi on privilégie par exemple une infirmière qui est dans l'hôpital et une infirmière libérale qui fait le même travail justement dans l'accompagnement à domicile? Pourquoi on n'aiderait pas quelqu'un qui fait de l'aide à domicile de personnes âgées pour les maintenir à domicile et qui est souvent dans des structures qui peuvent être privées?
Elles sont comprises dedans?
Non, parce qu'elles sont dans des structures privées. Il y en a
tous les soignants qui sont concernés.
Et donc ça, effectivement, on commence à créer des usines à gaz. Je pense qu'effectivement, le problème, et ça a bien été dit, le problème, il est un problème du logement pour tout le monde. Et dès lors qu'on commence à vouloir faire des quotas pour fonctionnaires...
De plus en plus. Est-ce que vous ne remarquez pas, moi je suis contre cette proposition. Je considère que la France se soviétiserait avec cette proposition. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui...
Bah, c'est un pays qui manque d'infirmiers, c'est un pays qui manque de profs.
Augmenter leur salaire. Ensuite, je suis désolé, on ne manque pas de profs, c'est pas vrai. On peut agir sur le temps de travail de nos professeurs. Je crois que vous l'aviez vous-même proposé, Madame Royal, en 2007, je m'en souviens. Et c'était une bonne
proposition. Ce que dit David Daniel, c'est qu'il passe 2 heures dans les transports en commun.
Et leur demander d'être plus présents. Mais tout le monde passe du temps dans les transports en commun. Les salariés du privé aussi passent du temps dans les transports. C'est extraordinaire, quand même. Le monde politique aujourd'hui, et singulièrement cette majorité, si vous êtes un petit salarié du privé, vous n'avez le droit à rien. Vous n'avez aucune considération de la part des pouvoirs publics. Vous n'en avez que si vous êtes soit un ultra riche, là vous êtes très protégé parce qu'on vous fait la flat tax, on vous fait tout ça, ou alors si vous êtes un fonctionnaire, parce qu'il y a une espèce de sacralisation maintenant en France du fonctionnaire. Donc moi je suis désolé, je trouve ça très inégalitaire, très irrespectueux pour les salariés modestes qui sont ceux qui financent malgré tout ce système complètement fou. Je rappelle que Emmanuel Macron a recruté 168 000 nouveaux fonctionnaires depuis 2017, comme si c'était nécessaire et comme si la France avait besoin de 170 000 fonctionnaires de plus depuis 2017. Donc, refusons cette soviétisation de notre pays, payons mieux les gens et ils pourront davantage se loger.
Le fond du problème, c'est qu'il y a une crise. Il y a une crise du logement. J'aimerais qu'on donne la parole à Lisa, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de crise du logement, de crise du logement social. Il y a beaucoup de demandes, trop peu d'offres. Que disent les chiffres, Lisa?
Alors, le dernier chiffre dont on dispose date de 2022. Et d'abord, un constat. Presque 2 Français sur 10 sont locataires d'un logement social. Ça représente à peu près 10,2 millions de personnes. Et ce chiffre n'est absolument pas représentatif du nombre de personnes qui peuvent prétendre à un logement social. Un tiers des ménages n'est pas propriétaire. Ces familles ont des revenus qui leur permettent de demander l'accès à un logement social. Mais effectivement, il n'y a pas assez de logements sociaux. Et la liste d'attente avant obtention est très longue. 2,5 millions de familles espèrent toujours un retour positif. Et l'année dernière, en 2023, le gouvernement annonçait que 85 000 nouveaux logements sociaux devaient être construits. Problème, ça n'a pas été fait à cette hauteur parce que le nombre d'agréments n'était pas suffisant. Le nombre de chantiers pour les logements sociaux tourne plutôt autour de 66 500. Et autre facteur qui contribue à cette crise du logement social et à la liste d'attente à rallonge, c'est le manque de mobilité. Les locataires ne déménagent plus ou alors ils déménagent beaucoup moins. Moins de 8% des habitations sont proposées à la location. Ça veut dire que moins de 8% des demandeurs peuvent espérer avoir un logement social.
David Amiel, avant de s'occuper de prioriser ces logements sociaux pour les fonctionnaires, est-ce qu'il ne faudrait pas s'occuper de ces 2,5 millions de personnes qui attendent depuis des mois, des années, pour certaines, un logement ?
Si, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle, à nouveau, ma proposition, c'est de construire des logements supplémentaires. C'est certainement pas.
Il va falloir en construire beaucoup parce que vous avez 2,5 millions de personnes qui sont sur la liste d'attente.
C'est aussi que les personnes qui sont aujourd'hui dans le logement social et qui ont des revenus qui sont significativement supérieurs au plafond de ressources qui donnent accès puissent le quitter. C'est la proposition du ministre Kasbarian. Mais je voudrais simplement, parce que je peux pas laisser dire des choses comme ça sur le plateau. Quand même, quand j'entends Charles de Consigny notamment, je me demande un peu dans quel pays il vit. C'est-à-dire que Charles de Consigny vit dans un pays, semble-t-il, où il n'y a pas de problème pour recruter des enseignants. Mais tous les ans, on voit que les concours pour accéder au métier d'enseignant font place vide parce que plus personne
les salaires.
Et c'est bien la raison pour laquelle, c'est bien la raison pour laquelle on doit recourir à des contractuels. Pardonnez-moi, c'est quand même un problème majeur. On est dans un pays où l'hôpital public se vide par paquet entier d'infirmiers. Et donc, il faut qu'on puisse trouver des mesures pragmatiques. Moi, ce que je propose, c'est d'enlever un logement à personne. Je propose que les employeurs publics, les hôpitaux, parce que je les ai entendus, puissent investir dans le logement pour les personnes qui y travaillent. Et si des employeurs privés veulent investir dans le logement des salariés du privé, c'est très bien. Ils ont un instrument pour le faire qui s'appelle Action Logement. Ils ont d'autres moyens de le faire. Qu'ils le fassent. Moi, ma recommandation, mon rapport portait sur ces employés du secteur public, mais bien évidemment, les entreprises du secteur privé peuvent également investir davantage dans le logement de leurs salariés et dans bien des cas, elles y auraient intérêt parce que les besoins sont effectivement aussi très importants.
Yann Brossat.
Juste, quel est le point de départ de la discussion qu'on a? C'est que, une fois de plus, ceux qui tiennent nos villes à bout de bras n'ont pas la possibilité d'y vivre. On l'a vu notamment pendant la période du confinement, les gens qui continuaient à travailler passaient un temps absolument monstrueux dans les transports. Mais ça ne concerne pas que les fonctionnaires, oui. Une fois de plus.
Ça concerne aussi les caissiers, les caissières.
Ça concerne en ce moment les salariés de l'hôtellerie et de la restauration. Il y a aussi d'énormes difficultés à recruter dans la restauration. C'est une question de salaire, mais pas uniquement une question de salaire. C'est aussi une question de lieu d'habitation, de logement. Et donc, la vraie question, c'est comment, dans notre pays, on refait du logement abordable. Et excusez-moi, je ne veux pas polémiquer avec David Amiel, il est plein de bonnes intentions. Mais enfin, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, on n'a jamais construit aussi peu de logements sociaux, comme de logements privés. Donc, à un moment donné, si on n'augmente pas le nombre de logements, et notamment de logements sociaux, on n'arrivera jamais à régler le problème.
On se demande aussi, Christophe Barbier, alors qu'on doit faire des économies, que le gouvernement cherche des milliards de tous les côtés, est-ce qu'il aura la possibilité d'investir dans la construction de nouveaux logements ?
Investir, c'est faire des économies, parce que c'est préparer la richesse de demain. Ce qu'il faut, c'est travailler sur les dépenses de fonctionnement pour faire des économies, mais investir, c'est bien. Et en effet, faut investir pour construire plus. Simplement, attention, on sait qu'on a des problèmes d'extension des villes, qui posent des problèmes de transport et d'écologie. On sait qu'on veut faire le ZAN, zéro artificialisation nette. Donc si on veut faire vite beaucoup de logements, va falloir faire des tours, va falloir faire du logement vertical. Ça sera une solution quasiment imposée dans beaucoup de villes. Est-ce qu'on est prêt dans ce pays à vivre en tours ? C'est pas notre culture, on n'est pas le pays des gratte-ciels. Ça sera difficile à faire avaler à ceux qui seront logés. Mais il va falloir en passer par là. Deuxième remarque, quand on veut louer un logement et qu'on a un petit salaire, bah on vous demande une garantie. Le loueur vous dit, est-ce que vous avez un garant ? Généralement, c'est un parent. Il y a dans le rapport du député Amiel une disposition pour que l'État se porte garant pour les agents publics, y compris ceux qui ont plus de 30 ans.
Ce que fait la préfecture de police à Paris, d'ailleurs.
Voilà. Ce que font certains, je crois que l'armée, par exemple, fait attention aussi à bien loger ses personnels. Ouais. Mais étendre cette garantie, ça coûte rien. Tant que le fonctionnaire paye son loyer, l'État n'a pas à débourser comme garant. Or, les fonctionnaires gagnent leur vie dans la sécurité de l'emploi, ce sont de bons locataires. Et ça, je pense que c'est un dispositif qui pourrait être activé rapidement.
Merci David Amiel, merci Yann Brossat d'avoir été les invités ce soir de BFM TV. On aura bien évidemment l'occasion de revenir sur ce sujet.